Barcelone, les Jeux Olympiques reviennent en Europe. Les Jeux de 1960 à Rome sont le symbole d'un pays en pleine mutation dans ces années 60 à forte croissance économique. Quelques mois avant l'ouverture des Jeux de Rome d'août 1960, sort un film devenu culte. Un film Palme d'Or à Cannes, qui est signé Fellini. Il va révéler un grand acteur encore inconnu, Marcello Mastroianni, avec une baignade devenue culte d'Anita Ekberg dans La Fontaine de Trevi. Vous avez deviné ? La Dolce Vita, que l'on peut traduire par la douceur de vivre et qui symbolise le basculement qui s'opère en Italie à ce moment-là et que l'on va appeler le miracle économique italien. L'Italie s'industrialise, en tout cas au nord, et voit son image se transformer en peu de temps avec le Made in Italy. Symbole de cet Italien mouvement, la Vespa et la Fiat, surtout la Cinquecento, ce qui entraîne de gros soucis d'encombrement dans les villes. Au point que la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rome commencera même avec quelques minutes de retard parce que le président de la République était bloqué dans les bouchons. N'empêche, l'atmosphère est à l'optimisme, d'autant que l'Italie vient, avec la France, l'Allemagne et le Benelux, de fonder ce qu'on appelait alors la CEE, l'ancêtre de l'Union Européenne, créée précisément par le traité de Rome, 3 ans avant les Jeux. Et puis, la capitale italienne est une ville au riche patrimoine antique. Les organisateurs vont évidemment jouer cette carte-là. Une manière de rappeler que si les Jeux Olympiques sont nés en Grèce, l'Italie est fière d'être l'autre grand pays européen de l'Antiquité. Le parcours du marathon est un modèle du genre, comme l'illustre ce petit film de présentation. C'est en italien, mais en faisant un petit effort, je suis sûr que vous pouvez à peu près comprendre.
Tratto finale della gara, l'antica via Appia. Il basolato romano guiderà i concorrenti attraverso i ricordi più illustri della antica Roma.
L'antique via Appia et ses pavés millénaires que les concurrents emprunteront parmi les souvenirs les plus illustres de la Rome antique, dit-on ici. Dans le même esprit, les épreuves de lutte ont lieu près du Forum antique et la gymnastique dans les ruines des thermes de Caracalla. Et puis, Rome améliore le cérémonial olympique en passant les médailles autour du cou des lauréats pour la première fois. Quant au marathon, il se termine à côté du Colisée, sous l'arc de Constantin. Un décor triomphal pour le moment fort de ces Jeux olympiques. D'ailleurs, j'ai demandé à Elisabeth Joly-Schimmels, la responsable des collections du Musée national de l'histoire de l'immigration de Paris, qui accueille une exposition sur l'olympisme, quel était pour elle le moment le plus marquant dans toute l'histoire des Jeux. Voici sa réponse.
Dans l'histoire olympique, je pense que celle qui me touche, c'est la victoire d'Abebe Bikila en 60 à Rome, sous l'Arche de Constantin. C'est voilà, typiquement un sportif exceptionnel dont le geste a une résonance intemporelle et mondiale au-delà de l'exploit.
Pourquoi donc Bikila va-t-il marquer l'histoire? D'abord, parce qu'il est éthiopien. C'est un soldat de la garde de l'empereur Haïlé Sélassié. Celui-là même qui avait subi l'invasion de Mussolini, qui avait fait défiler son armée en partance pour l'Éthiopie, précisément sous l'arc de Constantin. 25 ans plus tard, un athlète éthiopien remporte donc la médaille d'or sous ce même arc. Un sacré symbole. Et puis, savez-vous ce qu'il avait au pied ? Rien. Bikila a parcouru les 42,125 km de Rome, pieds nus. C'est ainsi qu'il s'entraînait. Et il n'avait pas trouvé de chaussures à son pied. Cela lui donnait des ampoules. Bikila est aussi le premier athlète d'Afrique noire à remporter un titre olympique. Ce qui va en faire le héros de tout un continent dans une année marquée par la décolonisation. Car en 1960, 14 pays africains accèdent à l'indépendance. Le Congo belge, bien sûr, mais aussi le Nigeria britannique et la plupart des colonies françaises d'Afrique noire, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou Madagascar. Il y a une autre figure marquante de l'histoire du sport qui obtient une médaille d'or à Rome. Il s'appelle Cassius Clay, alias Mohamed Ali, quand il se convertira plus tard à l'islam. À Rome, ce jeune homme de 18 ans va marquer les esprits par son style. Il sautille autour de son adversaire avant de faire parler son punch. C'est à Rome que naît sa légende, avec son seul titre olympique, car immédiatement après, il passera professionnel ce qui était incompatible avec d'autres participations. On le reverra tout de même, avec émotion, aux Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996, pour allumer la vasque olympique, alors qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Quant à la délégation belge, elle fait mieux qu'à Melbourne, où elle avait conquis 2 médailles d'argent. À Rome, le bilan est de 4 médailles, 2 d'argent et 2 de bronze. Et pourtant, la déception est immense. Parce qu'un médaillé d'argent de Rome avait la ferme intention de rentrer avec l'or. Roger Muntz est le recordman du monde de 800 mètres. Toute la Belgique attend un successeur à Gaston Raif, notre première médaille d'or en athlétisme aux Jeux de Londres en 1948. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à aller voir dans les archives cette finale de 800 mètres de Rome. L'adversaire principal du Belge est le Jamaïcain George Kerr. Dans le final, notre compatriote a pris la tête et jette sans cesse un œil à droite pour surveiller un éventuel retour de Kerr. À ce moment, Roger Muntz se dit « Ça y est, je suis champion olympique ». Mais omnibulé par le Jamaïcain, il ne voit pas sur sa gauche le sprint du Néo-Zélandais Peter Snell. Quand il aperçoit son maillot noir le dépasser, il est trop tard. Muntz ne sera pas champion olympique. Morale de l'histoire, en course, toujours regarder des deux côtés, à droite et à gauche, si vous voulez l'emporter.